Quand je me gare devant ma cabane, Dorothy est en train de frapper à ma porte. Elle a les cheveux mouillés par la sueur, plaqués en arrière comme une courtière de Wall Street. Elle a l'habitude d'essuyer sa lèvre supérieure, puis de lécher la sueur sur ses doigts, et elle a l'index dans la bouche comme un épi de maïs crémeux quand elle se tourne vers moi. « La voilà, » dit-elle, « la fraudeuse. » J'ai du retard pour le paiement de la cabane, 2 jours. Ça me fait presque rire. J'ai un loyer en retard. Je suis désolée, Dorothy. Je viens te régler dans 10 minutes. Je vais attendre là, si ça ne te dérange pas. Je ne sais pas si je vais rester. Je vais peut-être devoir continuer ma route. Tu me dois quand même les 2 jours. $80, s'il te plaît. Je me glisse dans ma cabane, défais ma maigre ceinture portefeuille. J'ai compté mon argent sur le lit ce matin, en prenant un long moment pour étaler chaque billet, un striptease économique affolant. Et la grande révélation, c'est qu'il me reste, je ne sais pas comment, il ne me reste que $8849. Ça coûte cher de vivre. Quand j'ai ouvert la porte pour tendre son dû à Dorothy, plus que $8769, j'ai vu Greta et Jeff sous le porche de Greta regarder l'argent changer de main. Jeff ne joue pas de guitare. Greta ne fume pas. On dirait qu'ils se tiennent là, debout, juste pour mieux m'observer. Ils m'adressent tous deux un salut. « Salut chérie !» Et je leur réponds d'un geste sans énergie. Je ferme la porte et commence à faire mes sacs. C'est étrange de posséder si peu de choses, alors qu'autrefois on possédait tant. Je ne possède pas de fouet à œufs ou de bol à soupe. Je possède des draps et des serviettes de toilette. Mais je ne possède pas de couverture digne de ce nom. Je possède une paire de ciseaux de façon à pouvoir continuer à massacrer ma tignasse. Ça me fait sourire, car Nick ne possédait pas de ciseaux lorsque nous nous sommes installés ensemble. Pas de ciseaux, pas de fer à repasser, pas d'agrafeuse. Et je me souviens lui avoir demandé comment il pouvait se considérer comme civilisé sans posséder une paire de ciseaux. Et il m'a dit qu'il ne l'était pas. Bien sûr, et il m'a soulevé dans ses bras, m'a jeté sur le lit et m'a sauté dessus. Et j'ai ri parce que j'étais encore la fille cool. J'ai ri au lieu de penser à ce que ça signifiait. On ne devrait jamais épouser un homme qui ne possède pas une bonne paire de ciseaux. Ce serait mon conseil. Ça n'attire que des ennuis. Je plie mes vêtements et les fourre dans mon petit sac à dos. Toujours les 3 tenues que j'ai achetées et planquées dans la voiture, il y a 1 mois, de façon à n'avoir rien besoin de prendre à la maison. J'ajoute ma brosse à dents de voyage, mon calendrier, mon peigne, ma crème, les somnifères que j'ai achetés à l'époque où je voulais m'abrutir pour me noyer. Mes maillots de bain bon marché. Tout cela va très vite. J'enfile mes gants en latex et j'essuie tout. Je démonte le siphon des lavabos pour enlever tout cheveu qui aurait pu rester piégé. Je ne pense pas vraiment que Greta et Jeff sachent qui je suis. Mais si jamais je me trompe, je ne veux pas laisser la moindre preuve. Et pendant tout ce temps, je me dis « Voilà ce qui arrive quand tu te relâches. Voilà ta punition pour ne pas penser tout le temps en continu. Tu mérites de te faire attraper. Une fille qui agit avec une telle stupidité. Et si tu as laissé des cheveux au bureau d'accueil, hein? S'il y a tes empreintes dans la voiture de Jeff ou la cuisine de Greta, hein? Quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de croire que tu pouvais être insouciante? Je m'imagine la police en train de fouiller les cabanes sans rien trouver. Puis, comme dans un film, je vois un gros plan d'un long cheveu châtain qui dérive sur le béton du fond de la piscine, attendant de signer ma perte. Puis mon esprit bascule complètement de l'autre côté. Bien sûr que personne ne va venir te chercher ici. Tout ce qu'a la police, c'est les racontars de 2 magouilleurs qui affirment avoir vu la vraie Amy Elliott Dune dans un îlot de cabanes pourries et bon marché au milieu de nulle part. Des petites gens qui essaient de se sentir importants. Voilà ce qu'ils penseront. On a frappé à la porte avec autorité. un peu comme un parent qui frappe avant d'ouvrir la porte en grand. « Tu es chez moi, ici. » Planté au milieu de ma pièce, j'hésite à ouvrir. Bam, bam, bam. Je comprends maintenant pourquoi tellement de films d'horreur utilisent ce procédé. Le mystérieux coup frappé à la porte. Parce qu'il a le poids d'un cauchemar. Vous ne savez pas ce qu'il y a dehors, mais vous savez que vous allez ouvrir. Vous penserez ce que je pense. Les gens mal intentionnés ne frappent jamais à la porte. Je retire mes gants en latex. J'ouvre la porte. Jeff et Greta se tiennent sur mon perron. Le soleil dans le dos, les traits dans l'ombre. « Salut, la belle. On peut entrer ?» demande Jeff. « En fait, j'allais venir vous voir. » J'essaie d'avoir l'air brusque, débordé. « Je pars ce soir, demain ou ce soir. J'ai reçu un coup de fil de chez moi. » « Faut que je rentre. »« Chez toi en Louisiane ou chez toi à Savannah ?» dit Greta. « Elle et Jeff ont parlé de moi. »« Louise, ça n'a pas d'importance, » dit Jeff. « Laisse-nous entrer une seconde. » On est venu dire au revoir. Il s'avance vers moi et je pense à hurler ou à claquer la porte. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mieux vaut faire comme si tout allait bien et espérer que c'est le cas. Greta ferme la porte derrière eux et s'y adosse, tandis que Jeff entre dans la minuscule chambre, puis dans la cuisine, en parlant du temps qu'il fait. Il ouvre les portes et les placards. « Faut que tu vires tout, sinon Dorothy va garder ta caution. Elle est hyper tatillonne. » Il ouvre le frigo, regarde dans le bac à légumes, le freezer. « Tu ne peux même pas laisser une bouteille de ketchup. J'ai toujours trouvé ça bizarre. » Le ketchup, ça ne se périme pas. Il ouvre le placard et soulève les draps que j'ai pliés, les secoue. Je secoue toujours, toujours les draps, juste pour être sûr qu'il ne reste rien dedans, une chaussette, un slip ou un truc comme ça. Il ouvre le tiroir de ma table de nuit, s'agenouille et regarde bien au fond. « On dirait que t'as fait du bon boulot, » dit-il en se relevant. Il s'essuie les mains sur son jean. « T'as tout récupéré. » Il me regarde de haut en bas, puis de bas en haut. « Il est où, mon petit cœur ? Où est quoi ? Ton fric. » Il hausse les épaules. « Ne complique pas les choses. Elle et moi, on en a vraiment besoin. » Greta reste silencieuse derrière moi. « Je dois avoir 20 dollars. » Mensonge. « Tu paies tout en cash, même le loyer. » Greta a vu ta grosse liasse de billets. Alors tu nous donnes ça, et tu peux t'en aller. Et on n'a plus jamais besoin de se revoir. J'appellerai la police. Vas-y, te gêne pas. Jeff attend les bras croisés, les pouces sous les aisselles. Tes lunettes, c'est des fausses, dit Greta. C'est du verre neutre. Je ne dis rien. Je la dévisage en espérant lui faire baisser les yeux. Tous les deux, ils ont l'air juste assez nerveux pour pouvoir changer d'avis, dire qu'ils m'ont fait marcher, et tous trois, on va éclater de rire. Et bien qu'on sache qu'il en va autrement, on acceptera tacitement de faire semblant. Et tes cheveux, les racines repoussent, et ils sont blonds, nettement plus jolis que ta teinture, là. C'est quoi la couleur ? Hamster ? Et cette coupe de cheveux est atroce au passage. Tu te caches. De je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment d'un mec ou d'autre chose, mais tu ne vas pas appeler les flics. Alors donne-nous ton fric. C'est Jeff qui t'a entraîné là-dedans ? C'est moi qui ai entraîné Jeff. Je tente d'atteindre la porte. Mais Greta se précipite sur moi et me pousse contre le mur. Elle plaque une main sur mon visage et de l'autre soulève ma robe et arrache la ceinture portefeuille. « Arrête, Greta, sans déconner, arrête !» Sa main chaude et salée me recouvre le visage, me bouche le nez. Un de ses ongles m'égratigne l'œil. Puis elle me repousse contre le mur. Je me cogne la tête. Je me mords le bout de la langue. La lutte est très silencieuse. J'ai encore en main la boucle de ma ceinture. Mais je ne vois pas assez pour me défendre. Mon œil pleure trop. Et très vite, elle s'arrache à ma prise. Elle me bouscule de nouveau et défait la fermeture éclair, palpe les billets. « Putain de merde ! Y a genre... » Elle compte. « Plus de 1 000 $ 2 000 ? 3 000 ? Putain de merde ! Dis donc, mais t'as dévalisé une banque ou quoi ?»«
C'est peut-être ça, » dit Jeff. « Détournement de fonds. »
Dans un film, un des films qu'aime tant Nick, je donnerai un grand coup par en dessous sur le nez de Greta. Je la jetterai au sol, pleine de sang, inconsciente. Puis j'administrerai un crochet circulaire à Jeff. Mais en vérité, je ne sais pas me battre. Et puis ils sont deux, ça semble vain. Si j'essaie de me jeter sur eux, ils vont m'attraper par les poignets pendant que j'essaie de les taper comme une gamine ridicule, ou ils vont vraiment sortir de leur gond et me casser la figure. Je n'ai jamais reçu de coup. J'ai peur d'être blessée par quelqu'un d'autre. « Si tu veux appeler la police, te gêne surtout pas, » répète Jeff. « Je t'emmerde, » je murmure. « Désolée pour ça, » dit Greta. « À ta prochaine étape, sois plus prudente, ok ? Faut que t'évites d'avoir l'air d'une nana qui voyage toute seule pour se planquer. »« Ça va aller, » dit Jeff. Il me tapote le bras tandis qu'ils s'en vont. Il reste une pièce de 25 et une pièce de 10 cents sur la table de nuit. C'est tout l'argent qu'il me reste au monde.